Ensemble donc avec Léa Salamé pour la suite de notre entretien avec Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Nos questions à tous les deux, Léa, et les vôtres, auditeurs d'Inter. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour, bonjour à vous. Je voulais demander comment peut-on à la fois, en même temps, puisque apparemment c'est des expressions consacrées, défendre en même temps la cohésion des territoires et supprimer des postes d'emploi aidés qui aident à la cohésion des territoires dans des associations, par exemple, qui font du périscolaire, etc.
Merci Jacques pour cette question. Julien de Normandie vous répond.
Bonjour Jacques. La question que vous soulevez est de savoir si les emplois aidés aujourd'hui, dans les décisions qu'ont prises le gouvernement, sont un secteur d'avenir ou pas. Quand vous regardez les emplois aidés, vous avez à peu près 2/3 des personnes qui ont des emplois aidés qui, à la fin de cet emploi aidé, ne trouvent absolument pas de job, absolument pas de travail. Donc on le sait tous, aujourd'hui, les emplois aidés ne sont pas les tremplins pour les personnes qui occupent ces postes. C'est faux de le dire, c'est faux de le croire. Il faut absolument prendre conscience que ces emplois aidés, ce ne sont au final pas des services que nous rendons aux gens qui en bénéficient.
Oui, mais ces gens rendent un service.
Alors, et le point, il est là. Donc il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut passer d'une politique d'emploi aidé à une politique de formation professionnelle. Cette formation professionnelle, le gouvernement met 15 milliards d'euros pendant la durée du quinquennat pour le faire. Et puis après, vous avez raison Jacques, il y a un certain nombre d'associations qui font un travail formidable sur le territoire et dont nous avons absolument besoin. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Les emplois aidés, on ne les supprime pas. Il en reste 200 000 sur l'année 2018. 200 000. On passe en fait de 280 000 à 200 000. Et on dit que ces emplois aidés, ils doivent en priorité aller vers les tissus associatifs, les tissus sociaux, les tissus de santé, en particulier en milieu rural et en particulier dans les quartiers populaires et dans les outre-mer.
Donc ça sert à quelque chose, l'emploi aidé?
La question, c'est comment vous passez d'un système qui aujourd'hui ne marche pas pour ceux qui en bénéficient.
Pardonnez-moi Julien de Normandie, beaucoup de gens qui en bénéficient disent que ça leur donne un lien avec l'emploi, que ça leur redonne confiance en eux.
Mais la question, Madame Salamé, c'est le lien avec l'emploi. C'est très bien, mais si vous avez un lien avec l'emploi pendant 8 mois, pendant 10 mois, et qu'à la fin vous n'avez plus de lien avec l'emploi, parce qu'encore une fois, 2/3 des personnes qui aujourd'hui bénéficient de ces emplois aidés, à la fin ne trouvent pas de job.
Et donc la trouvent pas de CDI pour être précis.
Non, la vraie bonne politique, c'est de faire une politique de formation professionnelle. Ces personnes, il faut les accompagner avec de la formation professionnelle. La meilleure protection, la meilleure assurance, c'est la formation professionnelle. Quand vous êtes, par exemple,
avant d'être formé, ces personnes sont chômeuses.
Quand vous êtes à Bac plus 2, vous avez 9 personnes sur 10 à Bac plus 2 qui a un job. Quand vous êtes au niveau Bac, vous n'êtes plus qu'une personne sur 2 qui a un job. Donc la vraie sortie pour avoir un travail, c'est de la formation professionnelle. C'est ça que nous faisons. Et en même temps, comme le dit Jacques, il faut soutenir les associations sur le terrain. Et c'est pour ça que nous avons une politique progressive et que nous maintenons quand même 200 000 emplois aidés l'année prochaine.
Victor, bonjour, vous nous appelez de Bordeaux.
Oui, bonjour. J'aurais voulu demander à Monsieur de Normandie, d'abord, quelle était la politique que le gouvernement défend en matière d'hébergement d'urgence, et particulièrement pour les personnes migrantes. Est-ce que Monsieur de Normandie peut nous préciser s'ils continueront à avoir accès à un hébergement, même une fois qu'elles auraient été déboutées de leur demande?
Merci beaucoup, Victor, pour cette question. Julien de Normandie.
Bonjour, Victor. Je vais vous répondre avec beaucoup de franchise. L'hébergement d'urgence, c'est pour moi énormément de détermination et aussi beaucoup d'humilité. L'hébergement d'urgence, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a ouvert 140 000 places d'hébergement d'urgence. 140 000 places sur tout le territoire national. L'année dernière, à la même époque, c'était à peu près 13 000 places de moins. Donc on a fait un effort significatif. On a augmenté de manière significative les budgets. C'est plus de 13% de dépenses que nous faisons. Et en même temps, j'ai beaucoup d'humilité quand je vous dis ça, parce que malgré tous les efforts que nous faisons, on constate qu'il y a encore des enfants, des femmes, des familles qui dorment dehors. Et ça, ce n'est pas acceptable. Pour être très concret, il y a 3 jours sur Paris, il y avait 9 femmes et 3 familles qui dormaient toujours dehors. Mmh. Et donc il faut aller encore plus vite, encore plus fort Léa. Dans les places d'hébergement d'urgence.
Julien de Normandie, vous parlez de la nuit de la nuit précédente. Le SAMU social a révélé les chiffres de la nuit du 28 au 29 novembre, donc il y a 10 jours quand il faisait 2 degrés dehors. 180 personnes seules, dont 80 femmes, ont dormi dehors et plus de 600 personnes en famille. Il y a une promesse qu'a fait Emmanuel Macron en juillet dernier. Vous vous souvenez de la promesse ?
Je me souviens très bien, mais vous savez, moi j'étais avec le SAMU social encore vendredi soir. J'ai passé la soirée avec eux dans leur centre. Avec les équipes, pour voir effectivement la montée en charge du dispositif. Les chiffres que vous donnez, ce sont les chiffres d'il y a à peu près 15 jours.
Oui.
Les chiffres que je vous donne, qui sont des chiffres d'il y a 48 heures,
donc
vous
ça montre en puissance.
Vous montre que nous avons fait des progrès
la promesse
considérables.
Et vous vous souvenez de la promesse ? Vous pouvez la répéter au
bien
micro.
Sûr, la promesse, c'est de pouvoir donner à chacun qui est dans la rue aujourd'hui, une solution.
Non, mais la promesse, si vous me permettez, elle est beaucoup plus claire. Emmanuel Macron, je le cite, je ne veux plus personne dans les rues d'ici la fin de l'année.
Oui, mais alors il faut parler avec beaucoup de franchise sur ces sujets-là. Comment vous tenez cette promesse ? Parce que c'est effectivement la promesse que nous allons tenir. Comment vous tenez cette promesse ? Ça veut dire que à chaque fois que vous rencontrez des personnes dans la rue, vous devez leur proposer une solution adaptée. Les femmes et les enfants sont la priorité. Évidemment, le montée en charge du dispositif permet de leur donner des solutions. Et après,
on sera à zéro donc à la fin de l'année.
C'est
vous parlez de montée en charge.
C'est l'objectif. Mais vous savez, c'est là où j'ai beaucoup d'humilité. Comment vous allez identifier les personnes dans la rue ? Vous en avez beaucoup qui refusent d'aller dans l'hébergement d'urgence. C'est ça la réalité de terrain. Vous avez des maraudes. Les maraudes, ce sont des camions du SAMU social. Il y a quelques semaines, j'ai passé aussi une soirée avec eux dans leur camion pour aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent dehors. Mais là, vous avez des gens qui vous disent « bah moi, je veux pas y aller ». Et puis, vous avez d'autres personnes, en dépit de tout ce que vous pouvez faire, que vous n'identifiez pas. Soit parce qu'elle n'appelle pas au 115, qui est le numéro d'urgence, soit parce que, avec la maraude, avec les camions, vous n'arrivez pas
malgré tout ça, vous nous redites ce matin, au micro de France Inter, qu'à la fin de l'année, donc dans 15 jours, il n'y aura plus personne dehors dans les rues.
Je vous le redis, et je vous le redis avec beaucoup de conviction et d'humilité, c'est que nous mettons en place le dispositif pour que, à chacun, puisse être proposé une solution. Après, c'est là où j'ai beaucoup d'humilité, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas et il y a d'autres personnes pour qui on a une difficulté majeure à aller les trouver.
Juste un mot supplémentaire sur ce sujet. Trier les SDF et les migrants dans les centres où on les accueille, ça a été l'une des propositions de Gérard Collomb lors d'une rencontre avec les associations qui ont entendu ça, lui ont rappelé les règles élémentaires de la République et de l'humanité et ont claqué la porte. Est-ce que c'est pensable aujourd'hui en France, en 2017, considérant ce que sont nos valeurs et notre histoire, de procéder à un tri dans l'hébergement d'urgence.
Excusez-moi, monsieur Demoreau, mais je ne peux pas vous laisser dire ça.
Enfin, c'est ce que les associations ont entendu. Elles se sont peut-être toutes trompées.
Non, il faut être très précis. Qu'est-ce qui est fait ? Allez dans les centres d'hébergement d'urgence. Moi, j'y vais régulièrement, c'est mon quotidien. Dans les centres d'hébergement d'urgence, vous savez, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas du tout les personnes que vous avez justement accueillies parce que pendant la nuit précédente, elles n'avaient pas de logement. Dans les hébergements d'urgence, vous avez 25% de travailleurs pauvres. Dans les hébergements d'urgence, vous avez des milliers de personnes qui n'ont plus le statut de migrant ou de demandeur d'asile, qui ont le statut de réfugié. Et dans les hébergements d'urgence, vous avez des familles qui y vivent depuis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a même rencontré des personnes qui y vivent depuis plus de 13 ans. Et qu'est-ce que dit cette circulaire que vous évoquez ? Elle dit qu'il faut les personnes, par exemple les réfugiés, ces familles, ces travailleurs pauvres qui sont depuis des années dans l'hébergement d'urgence, il faut leur proposer des solutions pour sortir de l'hébergement et aller vers du logement pérenne. Et en même temps, il ne faut pas d'hypocrisie, un demandeur d'asile qui a été débouté, dont la demande d'asile a été refusée. Effectivement, ces personnes-là, on doit pouvoir l'accueillir avec un hébergement d'urgence. Il ne s'agit pas du tout de le mettre dans la rue. Mais à terme, il doit pouvoir être reconduit dans son pays d'origine.
Quentin, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci. Alors ma question... en fait, les centres-villes des petites municipalités se meurent. C'est une grande tristesse parce qu'on assiste à l'abandon de centres-villes. Et donc, je souhaitais savoir ce que le secrétaire d'État comptait faire contre la désertification commerciale.
Merci beaucoup, Quentin, pour cette épineuse question. Julien de Normandie.
Bonjour, Quentin. Vous avez raison et... Moi, j'irai même plus loin dans votre question. Je pense que les centres-villes de ce qu'on appelle les villes moyennes ont souvent été les oubliés des politiques d'aménagement du territoire ces dernières années. Et aujourd'hui, on constate quoi ? On constate un développement de la périphérie de ces villes et un effondrement total de la vie du centre-ville de ces villes. Et ça, c'est tout l'âme de la ville ou du village qui finit par disparaître.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah, vous avez une chose qui est très
concrète. Ça semble être un mouvement historique et géographique.
Oui, mais c'est un mouvement qui est
impossible à arrêter.
C'est un mouvement qui a été souvent laissé pour compte, mis de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux principaux leviers. Il y a un premier levier, il faut réhabiliter les logements qui sont dans ces centres-villes. Comment vous réhabilitez des logements? C'est en mettant de l'argent et en mettant des procédures d'urbanisme qui permet de réaménager rapidement. C'est ce que nous faisons. Nous avons notamment travaillé avec une entité qui s'appelle Action Logement et nous mettrons 1,5 milliard d'euros pour rénover les habitations des centres-villes dont parle Quentin sur la durée du quinquennat. C'est énorme, 1,5 milliard d'euros pour rénover le logement. Et après, vous avez un deuxième sujet, c'est l'activité économique. Il faut se battre pour maintenir l'activité économique dans ou à proximité de ces villes.
Moi, pour le principe, mais comment on fait, Julien Denormandie ? C'est ça qui est, compliqué.
J'ai passé des années, par exemple, à défendre, vous savez, toutes ces entreprises en difficulté parce qu'elles ont un problème de délai de paiement, parce qu'elles ont un problème de trésorerie. Moi, j'ai passé des années, quand je travaillais précédemment, avant d'entrer au gouvernement, à accompagner ces entreprises, à sauver ces entreprises. Et là, vous avez tout un tas de mécanismes qui existent pour soutenir ces entreprises. Il ne faut rien lâcher. C'est développer économiquement. Et après, et c'est ça la particularité, et c'est en ça que le ministère dont j'ai la charge avec Jacques Mézard est important, on parle de cohésion des territoires. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche globale. Il faut traiter à la fois du logement, parce que si vous n'avez pas de logement, vous n'y allez pas, à la fois de l'activité économique, je viens d'en parler, à la fois du numérique, parce que beaucoup de ces villes-là, elles n'ont même pas Internet à très haut débit. Donc elle est belle l'affaire, vous allez dire aux gens d'aller y habiter, vous n'avez même pas Internet à très haut débit. Et ça, c'est un des sujets sur lequel je passe mes journées également aujourd'hui.
Allez, encore une question au standard d'Internet. Nizar, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire d'État. Ça fait 2 ans que je travaille sur Paris. Je suis venu volontairement pour un travail, mais je vois beaucoup de jeunes qui arrivent ici parce que juste il n'y a pas de travail intéressant ou pas de perspective d'avenir sur leur territoire. Et je voulais savoir comment vous pouvez éviter les mobilités forcées sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, c'est pas de gaieté de cœur ou qui galèrent à revenir. Et on se rend compte que tout se passe sur Paris, tout est centralisé. Et qu'on ne peut pas forcément imaginer une perspective de carrière dans sa région d'origine.
Bien compris. Merci Nizar pour cette question. Réponse rapide de Julien de Normandie.
C'est le développement économique. On en a parlé. Il faut créer des emplois partout sur le territoire. Donc c'est clairement la politique économique du gouvernement. Et puis après, il y a un deuxième sujet. C'est le sujet de la mobilité. Vous savez, les 5 dernières années, il y a à peu près 500 000 personnes qui ont refusé un job parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se rendre depuis son logement vers le travail en question. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est donc créer les lignes de transport du quotidien. C'est ce que la ministre du Transport, Madame Elisabeth Borne, est en train de faire. Il s'agit pas de créer, on en a parlé tout à l'heure, uniquement des aéroports, uniquement des lignes de TGV. Mais il s'agit de se demander comment quelqu'un peut aller de son logement vers son lieu d'emploi. Et ça, c'est un élément essentiel. Ça veut dire rénover les routes, ça veut dire améliorer les transports en commun, ça veut dire trouver les solutions idoines.
Une question rapide via l'application de France Inter. Que dire des dispositifs anti-SDF? Barre sur les bancs qui empêchent les SDF de s'allonger. Abribus sans toit, douche froide devant les portes de parking. L'État ne pense-t-il pas qu'il devrait agir pour empêcher cela et punir les auteurs?
Vous savez, moi, je vais vous faire une réponse à la fois de citoyen et à la fois de secrétaire d'État. En tant que citoyen,
C'est
révoltant. Je suis outré. Et combien de fois dans la rue j'ai pu passer devant ces endroits en me disant mais comment peut-on faire ça? Après, les responsabilités, faut les mettre aussi au bon endroit. Ces espaces publics sont pas gérés par l'État, sont gérés par les municipalités. Et deuxièmement, en tant que secrétaire d'État, c'est tout le débat que nous avons eu tout à l'heure sur l'hébergement d'urgence. Il faut pouvoir proposer aux gens qui vivent dans la rue d'aller dans l'hébergement d'urgence, mais il faut surtout aussi proposer à ceux qui sont dans l'hébergement d'urgence de les faire sortir pour leur donner des logements pérennes. Et c'est ce que nous faisons en ce moment.
Julien de Normandie, restez avec nous jusqu'à 9h.